On va se réinstaller et accueillir le projet d'Otimani et des jeunes du lycée du Dauphiné. Donc voilà, on va accueillir un super projet. Donc il s'agit des premières STMG du lycée du Dauphiné qui ont fait... qui ont fait un travail en 3 séances avec Otimani. Et du coup, on les écoute bien attentivement pour cette petite restitution de ce travail. C'est la classe de Audrey Pédusseau qui sont là devant vous. Enfin, en tout cas, une petite partie de la classe. Donc, on répondra, on va trier les questions et y répondre. Après, on fait on avait envie de mélanger des approches sensibles et politiques pendant cette table, et du coup, on est très contente d'accueillir ces jeunes.
Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Ok. Lorsque je dis badam, vous dites slam. Badam.
Slam.
Badam.
Ok,
alors j'étais venu avec un texte assez solide et tout, je me suis dit, ouais, je vais parler du quartier moi aussi, je vais parler du racisme, et en fait, bon, ils en parlent très bien derrière moi, donc du coup, je vais parler d'un petit gars qui me représente quand j'étais jeune. Et à l'époque, ce gars, il était tranquille, assis, mais un peu débile aussi. Je ne sais pas. Carrière scolaire en sursis, mes hématomes étaient mes soucis. Entre messie et démocrat, on observait les filles sexy, les filles jolies même, si. Être musulman était notre ré. Je pissais sur les conseils concis des adultes qui usaient de diplômes. Avec mon pénis circoncis. Avec mes idées en dur, si nos pères fronçaient les sourds, pour une addition de quelques acrobats, on courait vite à la pharma. Chez nous, il n'y a pas de démocrat. Je n'étais pas un dur, c'était ainsi. Juste un lascar de plus dans une T, si, un roublard aux allures de MC, perdu dans les phares de Léonard de... Hey. You are welcome. Évincé par les mots, j'épingla ma galaxie et s'insinue dans le slam. Ce fut ma poésie. Ce fumiste que je n'étais pas était tranquille, assis, mais peut-être un peu comme vous, hostile aussi. Mère.
Le racisme, c'est l'illustration de trop d'agitation.
L'équilibre, c'est de trouver une utilité au talent de motricité dont chacun a une aparté.
L'équilibre, c'est la liberté et l'égalité qui fait la fraternité dans un monde d'équité.
Le racisme, c'est une pensée montrant la sensibilité des personnes pensant avoir plus de légitimité.
Le racisme, c'est gratifier le fait de blâmer nos oppositions de couleur qui devraient pourtant être louées.
Le racisme, c'est bafouer l'équité, détruire la qualité d'une humanité.
L'équilibre, c'est une vie remplie de tendresse, un rêve qui reste gravé dans la tête, des idées dans la brume.
Le racisme, c'est le fait d'irriter la liberté qui existe dans le monde humain.
Le racisme, c'est comme des ergots plantés dans une roue, de mauvaises idées, de querelles très innovantes, mais d'aucune utilité.
Une qualité qu'on forge en humanité, c'est l'université des âmes libérées.
Le racisme, c'est imaginer briller dans la différenciation de la couleur de peau, mais pourtant tous égaux.
Le racisme, c'est penser que c'est une facilité de s'écarter de l'égalité.
Le racisme, c'est la réaction face à l'illustration de la différence.
Le racisme, c'est mettre une étiquette sur la tête sous peine de finir en blanquette.
Le racisme, c'est une forme d'irrespect qui peut amener au parquet.
Il y a ceux qui sont libres et ceux qui ne le sont pas. Un jardin de secrets, mon vrai nom, égalité. La fuite n'est pas une solution. Je comprends plus le monde où on vit. Juste un sourire pourrait me suffire, mais rien. de l'humus de partout en forêt, mon petit cabanon secret ce serait. Un moment de silence, c'est comme un sentiment d'abandon. Il y a celles qui ne sont plus, qui ne souffrent plus, ceux qui ne sont plus de ce monde, laissant que les branches de souvenirs derrière eux. L'amour nous éloigne les uns et des autres, l'image de la pensée qui leur appartenait, leurs souvenirs debout dans l'oubli. Les gens ne sont plus, c'est comme une impression d'inégalité, un sentiment d'oubli. Dans mes rêves, je voudrais une chose, l'égalité, la fraternité, la liberté, mais ce n'est rien. Ma ville, Romans-sur-Isère, un jour peut-être toute méchanceté disparaîtra, mais demain rien ne changera, le racisme restera pour l'instant.
Je m'appelle Égalité, je suis un rêve qu'on veut briser. Je viens des cris des révolutions, j'ai le don d'inspirer les nations. Hier Rosa a fait face, Simone a ouvert la porte de l'audace. Aujourd'hui les femmes se lèvent et leur voix ne s'achève. Demain sera un monde sans inquiéter, un jour ils s'arrêteront et là, paix.
Ils disent que la couleur des peaux ça ne veut rien dire, mais leur regard froid vient les trahir. Ma peau dérange, mon nom fait peur, dans leur silence je lis l'erreur. Les mots blessent plus que les coups, le racisme rampe partout. Pourtant on saigne tous du même rouge, mais leur haine, rien ne l'épuise, rien ne bouge. Un jour peut-être, on bousculera les murs, et l'humain verra enfin l'azur.
Je m'appelle Racisme, je suis la raison d'une séparation. Je viens de la haine qu'ils portent en eux, j'ai été normalisée bien trop souvent. Hier, j'ai battu jusqu'à la mort, aujourd'hui ils se battent contre moi, demain ils se battront encore, un jour ils m'abattront enfin. Pourquoi ai-je un jour existé? Peut-être car leur haine est trop grande, ici ils n'en voulaient pas, là-bas ils n'iront pas. J'aime lorsqu'ils luttent contre moi, je n'aime pas la méchanceté de leurs mots là. J'ai envie d'apaiser leur haine, je déteste les gens qui m'aiment.
Je m'appelle Humain, mais on me dit autre. Je suis celui qu'on regarde comme une faute. Je viens de loin, mais je respire ici. J'ai insulté l'injustice, mais elle reste là. Hier, on m'a dit que je n'avais pas ma place. Aujourd'hui, je rêve d'un monde plus vrai. Demain, peut-être, on se dira enfin. T'es chez toi, t'es pas en retrait. Un jour, je serai à ma place. Pourquoi tout ça? La couleur, c'est quoi? Peut-être que la haine rend aveugle le droit. Ici, c'est lourd. Là-bas, c'est pire. J'aime quand on se respecte. Je n'aime pas cette guerre qui tire. J'ai envie de vivre sans vous avoir peur. Je déteste qu'on juge un cœur à sa couleur. Je m'appelle l'espoir et je veux qu'on avance. Pour un monde sans barrières, sans différence, juste de la chance.
Pourquoi avoir créé l'égalité si ce n'est pour pas la respecter? Peut-être que nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais ici, on a tous un cœur. Là-bas, ce n'est peut-être pas le cas. J'aime que chacun soit respecté. Je n'aime pas la supériorité. J'ai envie de rétablir la paix. Je déteste l'infériorité.
Je m'appelle le racisme. Je suis une discrimination. Je viens pour rabaisser des personnes. J'ai insulté des personnes et détruit des vies. Hier, je critiquais. Aujourd'hui, je critique. Demain, je critiquerai. Un jour, peut-être, je me mettrai à la place des gens. Pourquoi suis-je cruelle? Peut-être car j'ai décidé de l'être et de l'amuser. Ici, j'ai brisé des vies, et là-bas aussi. J'aime être méchant. Je n'aime pas les personnes ayant des origines. J'ai envie de pousser les gens jusqu'à la dépression. Je déteste être gentil.
Je m'appelle Égalité. Je suis la paix. Je viens d'un conte de fées. J'ai la sérénité. Hier, j'étais le conflit. Aujourd'hui, je suis l'amour. Demain, je serai l'apaisement. Un jour, tout le monde sera comme moi. Pourquoi tout le monde n'est pas comme moi? Peut-être qu'on ne vit pas tous sous le même toit. Ici, c'est l'acceptation de soi. Là-bas, il n'y a pas de différence avec toi. J'aime l'accord entre les personnes. Je n'aime pas les conflits. J'ai envie de gentillesse et je déteste le racisme.
Le racisme, c'est comme des bouteilles remplies d'une tolérance inconnue, des fractions de querelles proches du mot harcelé.
Couleur de peau, poids du regard, un combat sourd, un mur trop tard. On saigne rouge, on vit presque pareil, mais le racisme cache un soleil. Je m'appelle Équilibre, je suis le pour et le contre incarné. J'ai envie de gagner cette guerre contre mon opposé. J'ai une place dans la société. Les gens pensent pouvoir m'accaparer, mais ils sont loin de remporter mon trophée.
Je m'appelle Égalité, je suis là pour égaliser les inégalités. Je viens dans le but d'un monde plus sain. J'ai pas eu ce privilège d'être respecté, mais je prends de l'égalité.
Le racisme, c'est bafouer l'équité, détruire la qualité d'une humanité, ignorer l'université de l'égalité et raser l'idéalité comme un mauvais barbier.
L'équilibre, c'est ce que nous voulons sur notre planète, présent dans cet univers qui nous semble si familière. L'équilibre, c'est l'équité, qui devrait être entre les roturiers et ces gens si aisés, qui pourraient s'en aller seulement d'un coup de poudrier.
Bonsoir à tous. Donc juste un petit mot pour remercier le réseau d'éducation populaire, le collectif justement qui permet de mobiliser les sciences sociales au profit de nos méthodes pédagogiques. Moi, j'ai été ravie de faire ce projet avec les élèves. Pour votre information, tous n'ont pas pu venir ici, mais tous les textes qui vous ont été lus ont été produits durant l'atelier qu'on a eu la chance de réaliser avec Haussmann. Donc merci pour votre présence ce soir, pour votre réaction face à ces textes, et un grand merci à Haussmann, bien évidemment.
Alors on va remercier Audrey Pedusso, s'il vous plaît. Elric Didier. Erdem. Sidji. Yasmine. Kali. Talia. Roman. Badam. Merci.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi.
Quand je croise un volet... Maintenant, la parole va être au public. Donc, on a des personnes qui ont trié les questions et qui vont les faire de manière thématique. Et on laissera nos intervenants et intervenantes réagir un petit peu en piochant le fil qu'ils veulent tirer de tout ça, puisqu'il n'y a rien d'exhaustif dans tout ce qu'on fait ce soir, parce que sinon, c'est une semaine qu'il faut faire, évidemment.
Le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi.
Je commence par une demande qui est formulée, c'est « Vous voulez pas rester un an avec nous ? Vraiment, sans blague ?»
Donc moi, je vais vous parler la parole et la place des pères. Donc les pères sont-ils invisibles, tout comme dans la société en général, car l'éducation des enfants est dévolue aux mères, point d'interrogation. Inégalités pour les parents pour aider leurs enfants. Les inégalités ne peuvent que s'accroître. Peur des gens qui sont différents, stigmatisation des immigrants. Y a-t-il une réelle défaillance des parents? Quel est le rôle des parents? En écoutant, ça donne beaucoup l'impression de victimisation, sans parler d'éducation. Quand on est nul à l'école, que fait-on?
Moi, je veux bien. J'aime bien les cascades. Alors d'abord, s'il y a des gens mal intentionnés dans la salle... Ce qui a été fait crier par Haussmann, c'est slam, pas islam. Préciser les choses. Vaut mieux être explicite, on ne sait jamais. Mais indépendamment que ça, sur la question des parents, c'est une très très bonne question. D'abord, le rôle des pères. Vous savez, on a souvent un... Alors d'abord, sur le fonctionnement des familles, mais pas seulement dans les quartiers populaires, il ne vous a pas échappé que la division des rôles est souvent très genrée. Il n'y a pas que dans les quartiers populaires que l'on voit beaucoup de mamans à la sortie de l'école pour récupérer les enfants. Donc oui, il y a un fonctionnement très genré, de répartition très genrée des rôles dans la sphère familiale. Et très souvent, la question de l'éducation ou le contact avec l'institution est très souvent attribuée ou assignée aux mères. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça veut dire que les pères sont absents? C'est souvent ce qu'on conclut. On ne voit que les mères, donc les pères sont absents. Non, pas systématiquement, loin de là. Vous avez beaucoup de pères qui sont mobilisés, mais ils ne sont pas visibles vis-à-vis des institutions en raison de cette organisation là. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des pères dans tous les foyers? Le taux de famille monoparentale est souvent une famille monoparentale pour des raisons de séparation, de décès, voire même de maladie. Pour des personnes qui ont travaillé, soumis à des produits chimiques. Je ne veux pas rappeler ces données-là, mais les pères dans les quartiers populaires tombent malades plus vite et partent plus vite que les autres. Donc il y a une question d'affaiblissement. Ensuite, en termes de rôle, père ou mère, la question fondamentale, dans les foyers, il y a trois choses, très rapidement. La première, c'est la question des ressources. Il n'y a pas que de victimisation. La question des ressources, elle est fondamentale économiquement et en termes de niveau de diplôme, etc. Parce que ces ressources, c'est ça qui permet de bien préparer les enfants à l'école, de bien les accompagner. Et c'est absolument essentiel. Ce n'est pas une question de volonté, pas de volonté. C'est une capacité d'accompagner dans les meilleures dispositions. À votre avis, c'est quel groupe socio-professionnel dont les enfants réussissent le mieux à l'école, en primaire ou au secondaire? Les enseignants. Forcément. Regardez les statistiques. Et c'est logique. Qui mieux qu'eux pour préparer leurs enfants dans une institution qu'ils connaissent par cœur, avec des contenus qu'ils connaissent par cœur, une pédagogie qu'ils connaissent par cœur? Donc oui, bien sûr qu'il y a des parents mieux armés que d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à montrer du doigt ou les gens s'organisent pour pouvoir compenser? Et une politique d'égalité, c'est une politique de compensation. Et là, la question qui peut être posée, c'est de quoi on a besoin pour réduire ces inégalités de départ? C'est une autre manière d'évaluer les politiques publiques. C'est de regarder les besoins et de regarder ce qu'il y a à côté. Donc oui, est-ce que tous les parents... On ne peut pas fonctionner en termes de tous les parents. Oui, il y a des parents qui sont moins investis que d'autres. Il y a des parents qui font des erreurs. Il y a des parents qui ne régulent pas les écrans, alors que jusqu'à un certain âge, c'est catastrophique. Oui, il y a des connaissances, et pas que dans les milieux populaires. Oui, il y a des choses qui se font qui devraient ne pas se faire, effectivement. Deuxième point, en dehors des ressources, c'est la question de l'autorité éducative. Et là, c'est valable pour tous les parents. C'est quoi l'autorité éducative? Parce qu'on parle beaucoup d'autorité, manifester son autorité. Vous avez des parents qui sont volontaires, mais ils ont perdu leur autorité éducative. L'autorité éducative, c'est la capacité à fixer un cap, à fixer des lignes, et à accompagner et à guider le comportement de ses enfants. L'autorité, c'est pas les coups. Les coups, c'est de la peur, c'est de l'intimidation. Et on peut obtenir des choses, mais ce n'est pas l'autorité éducative, ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas de l'amour. Non, l'autorité, c'est la légitimité. C'est ça qui est fondamental. L'autorité, c'est la légitimité. Donc oui, vous avez une partie des parents qui sont, d'un point de vue éducatif, délégitimés aux yeux de leurs enfants. Ça, c'est un fait, vous voyez, et pas que dans les milieux populaires. La grande différence dans les milieux populaires, c'est quand les parents perdent l'autorité et que les enfants transgressent, les transgressions disponibles, ce n'est pas les mêmes que dans d'autres milieux sociaux. Personne ne peut démontrer que les parents dans les quartiers populaires ont moins d'autorité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand ils ont perdu leur autorité, en termes de transgression, les choses qui sont faites, elles sont visibles, médiatisées, repérées, montrées du doigt. Vous voyez ? Donc oui, on peut parler d'éducation, des conditions d'éducation, mais en fait, les parents, globalement, ils n'ont rien à gagner à la délinquance de leurs enfants. Ils ont tout à perdre. Stress, problèmes de santé mentale, charge mentale, les frais, les perquisitions, les convocations, les humiliations, le regard paternaliste des institutions qui leur disent « mais vous êtes de mauvais parents », plus les discours politiques, je ne veux même pas en parler, parce que pour le coup, c'est gratiné ici. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un fait. C'est un fait. Donc oui, des difficultés parentales, il y en a dans tous les milieux sociaux, ça n'aboutit pas aux mêmes conséquences. Et il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, les centres sociaux, il y a des référents famille, on essaie de travailler, des ateliers parentalité, il y a un travail de fourmi qui est effectué pour essayer de sauver les gens, et ça fonctionne. Je dirais peut-être un mot sur ça tout à l'heure, mais il y a énormément de choses qui fonctionnent. Il y a énormément de parents qui changent leur manière de faire. Vous voyez, on parlait toujours tout à l'heure de... la monnaie, c'est un ancien quartier. Et quand on parle de la monnaie aujourd'hui, on ne parle pas des mêmes populations d'il y a 20 ans, 30 ans, en fait. Vous avez combien de personnes qui ont quitté la monnaie? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous savez, le taux de diplômé du supérieur, y compris dans les milieux populaires et dans les familles immigrées, d'une génération à l'autre, il augmente. Les parents se mobilisent, ils font le travail, ils obtiennent les résultats, les enseignants obtiennent les résultats dans les centres sociaux, un travail qui est fait. C'est concret, mais comment on le mesure? Tout à l'heure, Isabelle parlait d'évaluation des politiques publiques. Comment on mesure, par exemple, le fait que moi, à titre personnel, pour l'incarner les choses, moi, je suis très redevable de la CAF. Je suis un enfant de la CAF. pas seulement parce qu'on a eu des prestations familiales comme d'autres familles, mais parce que la CAF a cofinancé mon BAFA. Et grâce à l'éducation populaire, j'ai pu passer mon BAFA, j'ai été accompagné, et le conseil départemental mettait une bourse pour le BAFA. Voilà les politiques publiques. Du coup, nous, on a eu les moyens de payer le BAFA. Et l'animation m'a stabilisé, m'a sorti de la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et ensuite, la CAF ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'en plus, ma bourse de thèse, quand j'ai présenté mon projet de thèse, a été financée par la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc moi, j'ai un rapport très affectueux avec la Caisse nationale d'allocation familiale. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est comment... Bien sûr, ça a eu des effets, ces dispositifs publics. Et il y en avait d'autres, en fait. J'ai bénéficié de plein de petits dispositifs d'emploi jeune comme Yvon, à un moment donné. J'ai bénéficié, on appelait ça les emplois villes. C'était leur nom à l'époque. J'ai bénéficié de tout ça. Donc je m'arrête là pour dire que... Comment on mesure tout ça? Vous voyez? C'est pas la bonne méthode de faire deux photos d'un même quartier à deux moments différents. La meilleure méthode, c'est de suivre des corps, c'est-à-dire de se demander, tiens, on a une population sur une période donnée, qu'est-ce que les enfants deviennent, comment ils évoluent, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vivent? J'ai rencontré plein d'anciens de la Monnaie, bah, ils sont ailleurs, en fait. Il y en a, ils sont cadres, ils sont installés, ils sont enseignants, ils sont d'autres chefs d'entreprise, ils ont grandi là, en fait. Ils ont bénéficié peut-être de dispositifs, et puis ils viennent rendre, comme Yvon vient rendre... Comment on rend visible tout ça? Au lieu d'avoir un regard figé sur un quartier, comme si c'était une espèce de... Bon, je suis désolé. Mais...
Non, merci. Juste, on va avoir une petite séquence frustration, parce qu'il y a énormément de questions et on va essayer de les passer. Et donc, on va peut-être faire réagir à chaque fois sur chaque salve de questions et thématiques que une ou deux personnes. Voilà, c'était juste... voilà, j'ai le mauvais rôle, je vais frustrer ce soir. Et si vous avez une autre salve de questions...
Que deviennent les filles des quartiers populaires? Subissent-elles les mêmes discriminations? Quelle trajectoire? On parle de la jeunesse, mais qu'en est-il de la place des femmes et des jeunes filles dans les quartiers délaissés? Influence du genre masculin-féminin sur les parcours, réussite sociale, personnelle pour les jeunes des quartiers?
Je me dis que peut-être Isabelle, tu as des billes sur ces questions.
La sociologie montre que les filles, comme elles sont plus cantonnées à l'intérieur du domicile, et pas que dans les milieux populaires, elles réussissent mieux à l'école que les garçons. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'après elles vont mieux réussir professionnellement, parce que même si ce sont de meilleures élèves, en fait, après dans la sphère professionnelle, elles sont dépassées par les garçons. Dans les familles immigrées, les enquêtes... Plusieurs enquêtes, grandes enquêtes statistiques représentatives montrent que les filles réussissent particulièrement bien, voire même mieux, à conditions socio-économiques similaires. Enfin, tout ça, c'est... elles réussissent même mieux que les filles de la population majoritaire. Sauf pour les jeunes filles issues de l'immigration turque, avec des raisons qui ont à voir aussi avec l'organisation collective, communautaire, où voilà, les trajectoires, les destins sont pensés à l'intérieur. Mais sinon, effectivement, les jeunes filles... réussissent mieux, puis elles réussissent mieux aussi parce que l'émancipation, elles intègrent très tôt l'idée que pour elles, ça passe par l'école. Donc peut-être, voilà pour ce que je peux dire pour les jeunes filles. Après, sur la question aussi de quelle place des filles dans les quartiers, et moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi de voir, en travaillant sur la famille d'Yvon, en fait, sur l'ensemble de la fratrie. Donc, j'ai aussi rencontré les sœurs. Et puis, ça m'a intéressé de rencontrer les femmes, les deux épouses, et puis les filles aînées des deux frères. À chaque fois, pour avoir le regard que chacune portait sur à la fois sur l'histoire familiale et sur les parcours des deux frères. Moi, en faisant cette enquête, ce qui m'a touchée, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme et que j'ai recueilli une parole d'hommes qui se sont montrés vulnérables dans l'enquête, qui m'ont dit pleurer mais en cachette, et combien c'était difficile de devoir toujours se montrer fort, finalement, d'une certaine manière. Et j'ai été frappée dans cette enquête par la vulnérabilité des hommes, parce qu'on était autour d'un deuil, hein, par la perte d'un frère, par la perte d'un ami, et par la force des femmes, en fait. Et voilà, c'est juste une remarque comme ça, et que je sens aussi que vous, les hommes, vous vous appuyez beaucoup sur vos femmes après, et que souvent les parcours aussi de sortie de délinquance, ça s'appuie beaucoup sur la socialisation conjugale. Voilà. Et aussi, oui, ce qui m'a frappé aussi dans cette enquête, c'est la manière dont vous parlez de vos mamans, tous, à un moment ou à un autre de l'entretien, ils parlent de leur maman.
Oui, je vais juste intervenir assez rapidement par rapport aux filles dans le quartier. Bon, nous, à l'époque, nous, quand on a grandi dans les quartiers, les filles, elles n'étaient pas trop impliquées dans les embrouilles de quartier. Aujourd'hui, on voit que ça a évolué. Les filles étaient beaucoup plus à la maison, donc forcément, elles avaient plus de possibilités d'étudier. Donc, c'est peut-être pour ça que réussissait un peu plus que nous, les garçons. Oui, Isabelle, comme Isabelle expliquait, nous, on est des hommes, on doit être forts. Et effectivement, lorsqu'on essaye de se construire, nous, on est aujourd'hui... mon petit frère et moi, on était avec des filles du quartier aussi, donc de notre quartier ou des villes à côté. Et donc, elles ont joué aussi un rôle pour nous permettre de nous extirper de la rue. Et Sandrine, la femme de Wilfried, on l'appelait la BAC parce que c'était la police. C'est elle qui, c'est elle qui le réglait et qui lui donnait des heures. Donc, le rôle de la femme est très importante. Et puis, nos mamans, c'est sacré, c'est nos reines, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas aussi fait intervenir dans le livre. Voilà, pour les laisser et surtout les respecter.
Cette question autour plus de l'approche systémique du racisme. Comment l'urbanisme influence la ségrégation ? Les difficultés d'intégration entre les différentes communautés au sein de ces quartiers persistent-elles toujours ? Dans les années 80, les quartiers populaires étaient-ils plus divers ? Comment agir dans un système impérialiste et raciste ? Et comment agir quand les dominants décideurs ne partagent pas cette grille de lecture ? Nous, tous et toutes, pourrions nous interroger sur nos propres racismes intellectuels, social, religieux, origine, etc. Là, il y a trois points. Un parcours accessible et connu, entre guillemets, la rue. Les autres parcours flous, pas d'exemple. On n'est pas obligé d'aller en général pour ne pas sombrer dans la délinquance. Vous présentez que ce chemin normatif ? On cherche le chemin pour que des jeunes s'intègrent dans la culture, le système qui assassine ou a assassiné leurs racines. Le projet de l'assimilation n'est-il pas lui-même raciste ?
Ben, merci pour les questions. Je ne sais pas bien... on va peut-être rester un an, effectivement. Ouais, c'est compliqué de saisir tout ça. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Qu'est-ce que c'est que l'approche systémique du racisme? En tout cas, on voit bien que ça ne suffit pas d'aborder le racisme uniquement comme une sorte de doctrine qui serait constituée. Hein. Il y aurait des individus qui porteraient cette espèce d'idéologie de l'inégalité des races, de la hiérarchisation des races, etc. Ça existe évidemment, mais ça ne suffit pas pour comprendre comment se construisent les inégalités ethno-raciales dans une société. Le racisme, c'est systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de pratiques, de politiques, de représentations plus ou moins diffuses qui, intentionnellement ou pas, aboutissent à produire des effets qui sont inégalitaires. Moi, pour le coup, peut-être pour rebondir aussi sur les questions qui ont été posées sur le rôle de l'urbanisme ou des politiques urbaines là-dessus, j'ai travaillé sur le cas du logement social, des politiques du logement social et de comment sont attribués les logements sociaux. On observe bien comment est-ce qu'il y a ce racisme systémique qui fait que certains groupes sont relégués dans certains espaces qui sont aussi les moins valorisés de nos villes. Et il y a plein de choses qui s'emboîtent en fait là-dedans. Il y a, tout à l'heure on parlait de la politique de rénovation urbaine. Quand des ménages issus de quartiers qui sont stigmatisés souhaitent être relogés, ce qui peut arriver même si ce n'est pas forcément le cas, hein, beaucoup souhaitent rester dans leur quartier, mais s'ils souhaitent aller par exemple dans une petite commune périurbaine, il va y avoir des réactions. Le maire ne va pas forcément être d'accord. Les habitants de ces petites communes ne sont pas forcément contre le fait que des logements sociaux s'y construisent, mais par contre, ils sont quand même très attentifs à qui est-ce qu'on va accueillir dans ces logements. Les bailleurs sociaux, eux, ils ont intérêt à être dans un rapport positif avec le maire pour pouvoir continuer à développer des logements, etc. Donc il y a des intérêts qui vont faire que bien souvent, le bailleur, il va être dans un rapport d'écoute attentive du maire et du type de profil de personnes qu'il souhaite voir arriver dans sa commune. Et puis, il y a les locataires qui peuvent parfois... lancer une pétition quand ils trouvent qu'il y a trop de certains profils d'habitants qui arrivent dans le quartier, etc. Et le bailleur, il va faire avec ça. Il y a une catégorie indigène dans le logement social qui est celle de seuil de tolérance, qui est une vieille catégorie qui traduit ça, en fait. On a des bailleurs sociaux qui mettent en place des stratégies de seuil de tolérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà d'un certain seuil, alors plus ou moins défini de façon informelle, on va arrêter d'attribuer des logements à tel ou tel groupe racisé dans une cité, dans un quartier, parce que sinon on considère qu'on va avoir des problèmes en tant que bailleur. Et voilà la dimension systémique du racisme. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est un exemple qu'on pourrait dupliquer à tout un tas d'autres domaines sociaux. On pourrait parler de la police, on pourrait parler de l'école, on pourrait parler des loisirs, etc., etc. J'ai certainement pas fait le tour des 52 questions, mais bon, c'est un début.
C'est des questions qui se rejoignent un peu, mais qui prennent un peu différemment. L'impact de la colonisation a favorisé, maintient ces difficultés dans les quartiers. Pourquoi on focalise les délinquants arabes et pas sur les blancs? Quelle trajectoire et stigmatisation pour les filles et les garçons? À qui profite la stigmatisation? Et la dernière, la richesse versus pauvreté n'est-elle pas le premier déterminant pour discriminer plutôt que l'origine? N'est-il pas question de classisme plutôt que de racisme?
Bon, alors sur le lien entre délinquance et origine, deux choses. D'abord... le facteur origine pour expliquer la délinquance, c'est-à-dire cette obsession pour connaître le nom, le prénom, voire avoir la photo d'un quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime ou un délit, cette espèce d'obsession, elle est à géométrie variable. et la mobilisation de l'origine pour expliquer un comportement, elle est aussi à géométrie variable. On ne mobilise l'origine, quand je dis l'origine, ce n'est pas l'origine sociale, hein. C'est l'origine culturelle. La couleur de peau, la nationalité, l'origine ethno-raciale, le groupe ethno-racial, etc. On ne mobilise ce facteur-là uniquement que pour expliquer les comportements négatifs des minorités. D'accord ? La délinquance, par exemple. Le terrorisme, etc. Et donc, vous avez à l'extrême droite, notamment dans la fachosphère, des radars de l'actualité. On fait le radar de l'actualité et on cherche ce schéma-là où un auteur présumé non blanc aurait fait une victime blanche. Il n'y a que ça qui compte. Il peut y avoir d'autres adolescents qui ne correspondent pas à ce schéma-là, qui n'intéressent pas. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une affiche, appel à une manifestation, et qui ne prenait en compte que Thomas et Nicolas, pas Zacharia. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils ne rentrent pas dans le schéma. Ça veut dire que ce n'est pas Thomas et Nicolas ou Zacharia qui les intéressent en tant que personne. Ça veut dire que c'est leur couleur de peau qui sert leur agenda politique. C'est ça que c'est. En termes d'analyse, c'est pas des enfants qui meurent. C'est pas des enfants qui meurent qui les intéressent. C'est le profil racial des enfants et des auteurs. C'est deux choses qui sont différentes, il ne faut pas se mentir. Et le prénom renvoie à ça. Donc on utilise le facteur origine que pour parler de comportements négatifs des minorités, mais pas des comportements positifs. Là, le facteur origine, il va faire dodo. Il arrête de travailler. Il ne travaille que pour foutre la merde, en fait, ce facteur origine. Par exemple, quelqu'un qui passe un doctorat, qui devient médecin, avocat et qui est issu de l'immigration, on va célébrer non pas l'origine, mais la République, l'école, la méritocratie. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce facteur origine pour se réveiller uniquement pour foutre la merde ? Vous voyez, je prends cette métaphore-là, mais c'est exactement comme ça que c'est posé dans le débat public. Et le facteur origine, il dort aussi quand la délinquance est la délinquance du groupe majoritaire, bien sûr. Vous voyez, il y a plein de procès en ce moment, des procès politiques pour corruption, détournement de fonds, etc. Est-ce qu'on va aller se poser la question de l'origine bretonne de tel ou tel leader politique ou l'origine hongroise d'un ancien président de la République qui a été condamné deux fois avec des confirmations en appel ? Non, mais... Ou Rachida... Alors, Rachida Dati, on va le mobiliser, pour le coup. Elle n'a pas ce privilège-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est juste que... Déjà, on peut prendre un peu de recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser la question. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se poser la question. C'est quoi les liens ? Je veux dire, tout le monde a une origine, a des origines, régionales, nationales, sur plusieurs générations. Tout le monde a hérité de quelque chose. Et nos héritages jouent sur nos attitudes, en fait. On a le droit de se poser la question. Moi, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se poser la question. Mais qu'on se la pose pour tout le monde. Et pour tous les comportements. À ce moment-là, on commence à avoir un débat intéressant et on sort des formes d'instrumentalisation raciste, clairement raciste, de ces questions-là. L'autre chose sur classisme et racisme, vous savez, une des manières de pouvoir articuler l'ensemble, parce qu'il faut articuler. Et bien sûr, quand on parle de questions scolaires, on parle fondamentalement de questions de classe avant tout. Vous voyez ? Et donc, bien sûr que les logiques de classe, les logiques de genre, les logiques de race s'articulent, ont plus ou moins d'importance selon les lieux, selon les phénomènes, et qu'il faut les prendre ensemble. Et tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit, mais c'est important pour moi de le rappeler, sur tout le monde est un petit peu raciste, tout le monde a des préjugés. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et je pense qu'il faut distinguer, et moi c'est ce que je fais, mais je ne suis pas d'accord avec tous mes collègues, et encore moins d'accord avec tous les militants antiracistes, je distingue deux niveaux d'expression du racisme. Un niveau systémique et structurel, qui renvoie au rapport de pouvoir et à la logique des chances et fonctionnement, y compris des institutions dans la société française. Voyez, est-ce qu'on déclenche tel dispositif public quand la victime est arabe, ou est-ce qu'on déclenche le même dispositif public quand la personne n'est pas arabe et du groupe majoritaire ? Par exemple, un soutien psychologique après un drame. Qui a le droit au soutien psychologique après un drame ? Qui n'y a pas le droit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un exemple parmi tout, et vous voyez, ça, c'est le déclenchement de ces soutiens-là, c'est l'État, hein, c'est les autorités publiques. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais sur la question du racisme, moi je distingue le racisme structurel, c'est-à-dire les chances d'être discriminé à l'échelle d'une société, Et de ce point de vue-là, ceux qui ont les chances dans le racisme structurel, c'est-à-dire les rapports de pouvoir, ceux qui sont infériorisés, on a surtout les personnes minoritaires. Par contre, il y a un niveau de racisme qui est plutôt interpersonnel, situationnel, dans les relations sociales. Et là, tout le monde peut être auteur de racisme. Il y a parfois du racisme entre minorités. Ça existe. Des personnes blanches peuvent subir du racisme à l'échelle de leur lieu de vie. Ça existe aussi, on ne peut pas le nier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tant que personne blanche, on ne peut pas être discriminé parce qu'on est blanc à l'échelle de la société. C'est ça la grande différence entre les deux. C'est-à-dire que structurellement, la discrimination à l'emploi, à l'embauche, etc., pour les personnes blanches, bah, il faut la démontrer. Mais de subir le racisme en tant que blanc dans son environnement social, c'est tout à fait possible, ça existe. De le nier, c'est pas fidèle à la réalité. Voilà ce que je voulais préciser sur ce qui a été présenté tout à l'heure.
Vous finirez seuls et vaincus, sous vos palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements des pôles veulent, recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même la serrée de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire, des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où de visant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. Seuls et vaincus.
La suite, c'est plutôt que faire? Quelles solutions pour en sortir? Les politiques préfèrent investir dans des équipements qui se voient, remettre des gardiens de la paix et des petits commissariats, constat de diminution des subventions de la politique de la ville, travailler le langage des petits, car la pensée se construit sur les mots. Quelles pourraient être les trois actions choc et immédiates pour rafraîchir la politique des quartiers? Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples inspirants d'actions et de politiques qui fonctionnent? Merci. Comment, en tant que citoyen, citoyenne lambda, pourrais-je localement, à Romans, apporter ma contribution à l'ouverture des quartiers? Vous avez des conseils sur quoi faire à Romans? Quelles sont les dynamiques internes au quartier qui peuvent aider? Voilà, quelles pistes pour des leviers d'action au niveau local, etc.
Qui veut commencer là? On va prendre le temps que chacun, chacune puisse s'exprimer sur le sujet.
Bon, je vais commencer. J'avais déjà un peu avancé sur les solutions, parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'essaie d'aller vers la solution. Donc déjà, ce que vous faites déjà, c'est déjà un très très bon début, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont réunies et qui ont envie d'apporter des solutions à Romans-sur-Isère et surtout pour les jeunes. Et comme on en discutait tout à l'heure, moi, je pense que la différence, elle doit se faire au niveau de l'école, pour moi. Et quand on parle, parce que tout à l'heure, on parlait de général, en fait, il y avait une opposition entre général et pro. C'est pas la question, c'est pas d'opposer le général et pro. Ceux qui ont la possibilité d'aller en général vont en général, ceux qui ont la possibilité d'aller en pro vont en pro. L'idée, c'est de travailler à travers l'école, parce que moi, je parle de mon expérience à moi, je parle de mes amis, je parle de ce que j'ai vu sur le terrain, ce que je vis aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment une différence entre mes amis qui ont eu du mal à l'école et qui ont été assez déscolarisés assez tôt parce que il n'y avait pas de soutien scolaire, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de stratégie éducative pour les accompagner dans leur vie scolaire. Donc automatiquement, ils sont sortis du système scolaire et se sont retrouvés dans la rue, et dans la rue, on essaye de se débrouiller, et ensuite on développe un amour propre et l'ego, et c'est ça qui mène vers les difficultés qu'on peut connaître dans la rue. Et de l'autre côté, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, parce que j'ai plusieurs groupes d'amis, des amis qui eux ont été plutôt à l'école et qui ont plutôt réussi leur vie entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire leur vie sans se retrouver dans la délinquance ou se retrouver en prison. Donc pour moi, l'importance de l'école, en fait, elle est centrale. Donc réussir à s'organiser autour de ça. Après, je pense que c'est juste des problématiques de méthode pour moi, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais la chance d'avoir un peu de facilité. J'avais des professeurs qui m'ont poussé. J'ai eu la chance aussi à l'été de mes 15 ans, que ma maman, voyant que je commençais à faire des gardes à vue, des bêtises, etc., de m'envoyer dans mon pays d'origine, au Congo-Brazzaville, où je me suis rendu compte des conditions dans lesquelles mes cousins qui étaient là-bas vivaient. Et donc, je me suis dit que, à partir de là, quand je vais rentrer en France, je vais essayer d'être plus sérieux à l'école et surtout d'essayer de m'en sortir. Parce que ça devenait une ambition pour moi de réussir à s'en sortir. Et le seul moyen que je voyais, parce que j'avais des manques, il y avait des manques d'argent, il y avait des manques de place à la maison, et pour pas que mes enfants vivent la même chose, il fallait que je trouve un métier. Et pour trouver un métier qui me permette d'avoir un salaire correct et de permettre à mes enfants d'avoir leur propre chambre, il fallait que je travaille à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été auprès de ces professeurs qui m'ont donné des méthodes, arrêter de procrastiner, de faire ses devoirs tous les soirs, de lire des bouquins. Voilà, c'est des petites méthodes comme ça qui m'ont permis, moi, de m'en sortir. J'étudiais dans ma cage d'escalier parce qu'il n'y avait pas de place à la maison, donc il fallait que je me donne les moyens, il fallait que je sois discipliné. J'allais à la bibliothèque, voilà, il y a plein d'acteurs, et il faut réussir à s'accrocher à ces acteurs-là. Mais il faut aussi dire aux jeunes que ces acteurs-là, ils existent, que la communauté de Romans-sur-Isère se mobilise pour les aider et qu'ils peuvent aller frapper à une porte qui va s'ouvrir et qui va les accompagner derrière. Après ça, c'est de l'organisation au niveau des acteurs de Romans-sur-Isère, des acteurs de la ville. Là, aujourd'hui, les gens sont mobilisés parce que on ne peut pas malheureusement compter sur les politiques. Voilà, moi j'ai fait ce chemin-là, et une fois que j'ai réussi à m'en sortir de cette manière-là, à rentrer à la SNCF, etc., à faire mon chemin, aujourd'hui je vois que j'ai les méthodes. Donc les méthodes, je les ai transmises à mes enfants, qui réussissent bien à l'école. Mon frère, c'est pareil. Mon grand frère, tous mes frères, c'est pareil. Donc tous nos neveux aujourd'hui, ou mes enfants, ils font des grandes écoles, etc. Ils sont rentrés, ils font des écoles de commerce. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on leur a donné des méthodes. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des organisations, qu'il y ait des méthodes, et que ces méthodes soient transmises aux enfants pour qu'ils essayent de s'en sortir par l'école. Voilà, merci.
si quelqu'un d'autre parmi vous veut continuer là-dessus, sur les pistes.
Isabelle. Pour aussi, enfin, à la fois pour faire le lien entre ce que vient de dire Yvon et ce qu'a dit Marwan tout à l'heure, c'est vrai que cette idée, c'est du bon sens même, en fait. La prévention, ça veut dire que ça commence petit, et peut-être transmettre des méthodes, transmettre des outils, effectivement, penser l'accompagnement des petits avec les familles, enfin aussi penser comme vous le faites aussi là, l'action collective entre entre l'école et les familles, en fait, et éventuellement avec des médiations. Et c'est là aussi que l'éducation populaire peut avoir son rôle. Marwan parlait hier de voilà, que c'est aussi en discutant avec d'autres, l'idée que c'est bien de faire jouer les enfants au cap-là, qu'il faut contrôler le temps des écrans. Enfin, tout ça, on le sait pas forcément si personne ne nous l'explique. Et donc, l'école, ça se travaille en amont, ça se travaille depuis petit. Donc, il y a peut-être des dispositifs, ça existe, il y a les PMI, enfin, il y a tout un travail, mais ces dispositifs sont en souffrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de... et donc peut-être il faut le repenser collectivement aussi dans le cadre bénévole, associatif, mais voilà, il y a des choses à penser entre l'école, les familles, et puis il y a plein de choses qui peuvent s'inventer aussi au niveau associatif à ce niveau-là. Et puis oui, peut-être que il y a des choses à... il y a quelque chose d'important autour de l'image de soi. Et là, il y a un discours, et là aussi, je pense que le travail que vous faites, il est très important. C'est-à-dire que quand on entend toujours parler de soi en négatif, comme des jeunes qui sont un problème, c'est terrible, en fait. Et comment on peut se projeter positivement dans la société quand on entend toujours parler de soi comme un problème? Donc, changer le discours aussi et le regard, et avec des rencontres comme vous le faites, je pense que c'est, voilà, c'est aussi quelque chose qui me semble important. Le discours porté sur la jeunesse. Et peut-être pas d'ailleurs que sur celle de Roman. On parlait tout à l'heure des pères, où sont les pères, et aussi de ces jeunes qui posent problème. Effectivement, les parcours ne sont pas forcément les mêmes, mais je travaille aussi sur les questions de santé mentale à l'adolescence, dans tous les milieux sociaux. Aujourd'hui, les adolescents vont mal. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui vont mal, pas tous, heureusement, mais il y en a beaucoup qui vont mal. Et dans les dispositifs pédopsychiatriques d'accompagnement, c'est essentiellement des mamans qui sont là. Alors, ça ne veut pas dire que les pères sont absents, mais je pense que pour des raisons socioculturelles dans tous les milieux, ils se sentent démunis. C'est des moments où ils disparaissent parce qu'ils savent pas comment faire finalement. Pourquoi je disais ça, oui, donc la question du discours porté sur la jeunesse, aussi avoir conscience que c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, et que peut-être il y a besoin d'adultes aussi, d'autant plus besoin d'adultes. Et je pense que je pense que l'éducation populaire est peut-être particulièrement importante, parce qu'effectivement les politiques aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quelle mesure on a prise, et c'est décourageant si on attend tout du politique peut-être aujourd'hui.
Valérie, tu voulais intervenir? Vas-y, vas-y.
Oui, pour rebondir aussi, je partage ce que la dernière phrase d'Isabelle, c'est décourageant quand on voit que il y a un certain nombre de solutions en fait qui sont à disposition, que les problèmes, on l'a dit, on les connaît depuis assez longtemps, qu'il y a des solutions en face, et que par manque de volonté politique, c'est pas fait. Des choses aussi simples que sur la question des contrôles aux faciès, il y a des outils qu'on peut imaginer, le récépissé d'identité. On peut imaginer aussi sur cette question qui est déterminante de la police, parce qu'elle est très, très importante dans la façon dont les jeunes ensuite construisent leur rapport aux institutions, leur rapport aux politiques, etc. Renouer avec des formes de police de proximité qui mettent l'accent sur la prévention, dans laquelle on retrouverait la notion que la police, c'est un service public, en fait, pour les gens qui vivent dans les quartiers. Tout ça serait possible, absolument. Bon, après, il y a un rapport de force politique à construire, c'est sûr. Et donc, sur la question de ce qu'on peut faire dès maintenant, en fait, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de faire exister ces questions dans l'espace public, de construire des paroles collectives sur ces questions, et en particulier pour ce qui m'intéresse moi, sur ces questions de racisme et de discrimination. Il y a vraiment un déni qui est très profond dans la société française. Elle ne regarde pas en face son racisme, et donc c'est extrêmement important qu'on construise des espaces
pour co-construire ces paroles, pour rendre compte des faits, tout simplement, de ce qui se passe dans la société et de l'ampleur de ce racisme. Comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre visible? Moi, je pense que c'est ce que vous faites déjà en partie, et c'est super, et que c'est faire des documentaires peut-être, c'est faire des livres, c'est slammer, comme vous le faites déjà, c'est peut-être construire des médias indépendants, en tout cas documenter ce qui se passe et continuer à réfléchir collectivement là-dessus. Et peut-être une autre piste, c'est de voir comment est-ce qu'on peut construire des alliances au niveau local, des alliances larges, entre mobilisation des quartiers populaires et d'autres quartiers, antiracistes, féministes, écologistes. Il y a des liens à créer, en fait, pour partager un maximum et pour se soutenir les uns les autres. Et peut-être que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avancer sans attendre. Ce qui n'empêche pas de continuer à penser aussi à plus long terme à comment est-ce qu'on construit un rapport de force politique, mais c'est une façon de commencer, peut-être aussi.
Je vais vous présenter mon programme pour... Non, je plaisante. Quelques idées. La première idée, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est d'intervenir pour l'accrochage scolaire, dans la jonction, dans la transition maternelle-primaire, et vraiment faire du cas par cas. Et je vous le dis parce que j'ai travaillé sur un projet avec des acteurs associatifs, des enseignants, et on était arrivé au constat que ce serait bien d'offrir 3 heures par enfant par semaine. 3 heures par enfant par semaine, c'est pas beaucoup comme ça, mais on peut faire énormément de choses avec des enfants quand on commence très tôt. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Vous avez juste dans cette pièce, il y a suffisamment de personnes, si chacun donne 3 heures pour avoir une intervention en profondeur sur les enfants des 2 quartiers politiques de la ville qui sortent de maternelle avec des difficultés, sans passer par les décideurs, sans passer par la logique de subvention, juste 3 heures par semaine. Juste 3 heures par semaine pour chaque enfant, et ça leur apporterait énormément, et ils aborderont le CP dans d'autres conditions. Et puis c'est facile à évaluer. Hein. Il y a des tests au CP et il y a des tests au CE1, donc on peut voir le suivi sur le long terme. Donc voilà la première mesure. La deuxième mesure, c'est la question de la sensibilisation à l'antiracisme. Ça commence tôt, ça doit être partout, dès les établissements scolaires, avec les familles, en privilégiant les territoires dans lesquels le vote RN est le plus haut. Troisième. Non, mais je vous dis ça parce que, en fait, je vois beaucoup de fonds publics qui vont à la sensibilisation sur les questions de racisme et qui vont voir des populations dans des lycées, etc., des gens qui sont les moins sensibles aux thèses racistes, en fait. Donc non, il faut inverser la méthode. Eh ben, on veut faire la prévention là où il y en a le plus, pas là forcément où il y en a le moins. C'est commode d'aller voir des lycéens cool pour leur parler d'antiracisme. Il faut aller voir peut-être des gens d'un autre âge qui sont dans les territoires et qui votent dur. C'est un indicateur pour orienter l'action publique dans les bons territoires. Troisième chose, je pense qu'il faudrait changer de méthode sur les politiques publiques. C'est-à-dire que les acteurs sur le terrain évaluent les besoins. Non mais vraiment. Que les acteurs de terrain, dans chaque domaine, évaluent les besoins. Nous, dans le domaine médical, on a compté qu'il manque tant de médecins, tant de dentistes, il manque tant d'infirmiers ou d'infirmières. Nous, à l'école, il nous manque tant d'orthophonistes, tant de psychologues scolaires. Il nous faut tant d'éducateurs, tant d'animateurs pour pouvoir fonctionner à peu près correctement, pour pouvoir avoir un levier de transformation sociale, parce que c'est ça qui est recherché. Pas la reproduction de la situation ad vitam aeternam, mais pour transformer, pour améliorer en profondeur les choses. Et donc, c'est une manière d'inverser, c'est-à-dire de dire, voilà, dont on a besoin pour sortir de cette phrase qu'on entend chez beaucoup d'élus un peu partout en France, « je fais des choses, on fait des choses ». Oui, c'est vrai, tout le monde fait des choses. Hein, il suffit d'offrir 3 pizzas, c'est quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir du « on fait des choses » abstrait, il faut partir des besoins pour comparer ce qui est fait et ce dont le territoire a besoin. Voilà, c'est une autre manière de mettre les élus devant leur responsabilité. Et c'est une autre manière d'informer la population, d'éclairer la population dans ses choix, qu'ils soient électoraux ou autres. Et puis, je voudrais rajouter sur la question de la police. Je pense que d'abord, il y a des questions de formation, de sensibilisation dans la formation initiale des policiers. Moi, j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par le responsable de l'Académie de police pour me demander si je voulais intervenir. J'ai accepté avec grand plaisir, parce que je pense que c'est extrêmement important que les policiers aient aussi accès à une formation qui leur apporte la nuance, la complexité du terrain. Et la sociologie a toute sa place dans les académies de police, et ça commence. Hein. Ça commence, et je trouve ça intéressant, vraiment. Il faut que ça aille dans ce coin-là, mais il faut aussi des moyens de contrôle de l'action policière, et notamment un moyen citoyen de contrôle de l'action policière. Pas seulement la police qui contrôle la police, mais aussi un contrôle citoyen de l'action policière dans le cadre d'un service public, parce que ça reste un service public qui doit être au service de la population, pas au service d'une population contre une autre. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. C'est trop coûteux pour la ville. C'est trop coûteux pour les populations, mais ce n'est pas pour les populations qui sont ciblées que c'est coûteux. C'est pour toute la ville que c'est coûteux. Je le répète, et ce sera mon dernier mot, si ça ne va pas bien dans tel quartier, ça ne va pas bien dans la ville. Les choses rejaillissent. C'est dans l'intérêt général que les choses aillent mieux partout. Merci.
Merci à toutes et tous. On a juste quelques petites infos à vous partager avant de se quitter. Déjà, se dire qu'on n'a pas eu le temps de prendre toutes les questions et de les poser. On est désolé, mais on s'était engagé à finir à 19h20. On finira vers 19h20, 19h30. Et juste vous dire deux, trois infos. On va se les partager avec Clémence. La première, c'est que nous, on a envie. Aujourd'hui, on a travaillé avec notre tête. On a réfléchi. On était là. Et nous, les Duc Pop, on travaille aussi avec le corps. Et là, on a envie de faire un pas. On a envie d'y aller. On se dit, ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, les événements, la dernière année, on ne veut plus jamais ça à Romans. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler ensemble le 19 décembre. Rendez-vous à la maison de quartier Saint-Nicolas à 17h, je crois bien, c'est ça Clémence. Et pour ceux qui ont envie, c'est bien de nous laisser un contact. Et là-bas, il y a une feuille où il y a Pauline et Noémie qui font les stewards et qui vont pouvoir prendre vos contacts. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on a envie de continuer ça. On a envie de continuer à travailler. Vous pouvez aussi, on a édité, c'est gentil, hein, des petites cartes postales pour dire qu'est-ce qui se passe si demain, il n'y a plus de maison de quartier à Romans-sur-Isère. Ça ressemblerait à quoi? Parce que, très concrètement, c'est peut-être un jour ce qui attendra la ville de Romans parce qu'on nous a annoncé des baisses de subventions. Donc ça, c'est peut-être rien, mais nous, ça nous permet de se compter. Et ça, c'est important de dire qu'on est soutenu. Donc n'hésitez pas à en prendre, à nous les ramener dans les maisons de quartier, à les faire tourner autour de vous et à poser tout ça. Et moi, j'en ai fini. Et puis, je vais passer la parole à Clémence qui va vous donner aussi plein de petites infos.
Alors, du coup, nous, on était dans le cadre de Festisol. Il faut savoir que Festisol, la Vélorussion du 30 au matin, ne se tiendra pas. Elle sera reportée en janvier. Voilà, donc par contre, donc vous savez, il y avait Justice pour tous qui avait déposé, enfin, on ne sait pas s'ils ont déposé, mais il y a un appel à manifestation, Justice pour les nôtres, comme quoi je mélange les réacs, qui à 15h à Romans, et du coup, il y a un dépôt, une proposition de mobilisation à 14h, vraiment à l'opposé, le but n'étant pas de se rencontrer, mais de faire quelque chose de très symbolique pour montrer que ici à Romans, on résiste à la récupération raciste des violences. Donc ça, c'est 14h. Le lieu, c'est la place Berlioz. Voilà, le marché de la monnaie. Voilà. Pour faire exister des espaces où on continue à construire des discours, des façons d'agir face au racisme, l'ébullition, on tient un espace mensuel qui s'appelle Se renforcer contre le racisme et qui a lieu le prochain, le 12 décembre. C'est un jeudi soir de 17h à 19h. Et donc, on est tous et toutes bienvenus dans le sens où on peut aussi, face à la banalisation, briser le silence en tant qu'allié. Ou en tant que personne concernée. En tout cas, c'est un espace d'entraînement pour passer à l'action, construire de l'action collective. Voilà ce qui fait deux rendez-vous pour la suite, vu qu'on a un gros programme hein, que nous ont fait nos intervenants.
Il y a aussi une exposition qui s'appelle « Battre le pavé des rues contre le racisme et pour l'égalité des droits » qui est actuellement à la Maison de quartier Saint-Nicolas. Elle est extrêmement riche, donc venez la lire, venez la regarder. Et donc maintenant, c'est le moment des merci. Alors évidemment, à tous nos intervenants de s'être déplacés pour venir ici. Je ne vais pas citer tous les bénévoles qui sont sur cette action, mais je veux quand même citer Régis Roussillon avec l'aspect scolaire et le lien qu'il a pu faire avec tout ça. C'est un événement qui est financé par les fonds de développement à la vie associative. Donc merci à eux et elles. Merci à la librairie des Cordeliers. Il y a les livres Petit Frère, il y a Embrouille. Enfin voilà, donc tout un tas de ressources pour continuer à tirer les fils de ce que nous ont déposé les intervenants. Et évidemment, merci à Radio Royan. L'entièreté de cette table ronde sera disponible prochainement sur le site de Radio Royan. .fr et sur les plateformes de podcast dans la rubrique Hors les murs de la chaîne Radio Royan, pardon, et envoyé aussi aux radios locales, Radio Saint-Ferréol et Radio BLV. Merci beaucoup!
Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution! Quand on a mal.